Je suis né en 1953 en Algérie, dans une famille juive. Il est attesté qu'au cimetière d'Alger, il y avait une tombe Trigano datant de l'an 1400. Donc voilà, une famille juive traditionnelle, mais pas du tout ce qu'on pourrait appeler intégriste, parce que mon père était très attaché à la tradition, en même temps il était communiste, donc on était très libre, on mangeait pas cachère, on pouvait se moquer de la religion aussi, mais en même temps être sensible aux lumières de la religion. Voilà, donc arrivé en France en 1962, comme tous les pieds noirs, une période de latence pour moi, mes parents étaient déprimés, moi-même du coup... J'étais, je pense, assez dépressif et en fait assez inexistant jusqu'à mes 68. Mes 68 a été pour moi un grand réveil. Ça a été une ouverture à tout point de vue. J'ai découvert les filles, j'avais 16 ans. Je me suis engagé dans des mouvements d'extrême gauche très sérieusement et à fond. Puis un grand tournant pour moi en 1976. Là, j'arrivais au bout de cet investissement très grand dans la militance politique et j'ai eu comme un effondrement, une sorte de dépression. Et en fait, c'est le moment où je me suis retourné vers l'intériorité. Par des lectures, par la rencontre aussi avec mon maître de kabbale qui s'appelait Emmanuel Levin. Et j'ai été très séduit par un tout petit livre qu'il avait écrit, la couverture rouge, qui s'intitulait « Le judaïsme révolutionnaire ». Comme j'étais révolutionnaire et que j'étais juif, je suis rentré dans cette histoire-là, parce que moi je pouvais pas revenir vers un judaïsme trop classique. Je me sentais étranger à la synagogue, j'avais découvert trop d'élargissement de conscience pour me refermer sur quelque chose de uniquement traditionnel. Et la Kabbale représentait pour moi, en tout cas telle qu'elle était enseignée par Emmanuel Levin, une sorte de lien avec ce qu'avait été ma vie jusque-là et la spiritualité hébraïque. C'est-à-dire, on n'abandonnait pas l'impératif de transformer le monde. Alors j'ai dit que j'ai eu ce mouvement vers l'intérieur en 1976, mais je peux revenir quand même avant. Disons que donc j'étais assez inexistant à l'extérieur, je disais, en arrivant d'Algérie... très mal dans ma peau, et en même temps, j'étais sensible à mes rêves. En fait, à l'âge de 7 ans, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup intrigué, j'y ai pensé pendant des années. Parce que dans ce rêve, j'avais 7 ans, mais dans ce rêve, j'étais adulte. Et j'avais un turban, et je discutais avec des sages. Peut-être une irruption dans une mémoire d'une vie antérieure, pas forcément la mienne d'ailleurs, mais en tout cas, j'étais... cet adulte qui étudiait des textes sacrés avec des érudits. Et ce rêve, je l'ai encore en tête. Ce rêve m'a habité pendant des années parce que je pouvais pas le comprendre. Ce qui fait que je me suis très tôt intéressé au rêve. Ce qui est important pour la suite de, de mon aventure. Et j'ai même commencé à tenir un cahier de rêve à partir de l'âge de 12 ans. Et ensuite, donc, quand je suis devenu plutôt un militant d'extrême gauche, j'étais en même temps un étudiant. Et là encore, j'ai eu un rendez-vous avec la psychanalyse, puisque j'ai eu la chance de pouvoir assister au séminaire de Lacan, qui se tenait à l'époque au Panthéon Sorbonne, à Paris. Et donc j'étais complètement fasciné, bien sûr, par son langage très énigmatique, hein, c'est parler comme l'inconscient parle. Puis j'étais très lié à quelques amis étudiants, qui était passionné par la psychanalyse, à la fois par le mouvement de transformation du monde à l'extérieur et en même temps très intéressé par la psychanalyse. Et donc on lisait ensemble des textes des grands psys, Freud, Lacan, mais aussi déjà Jung. Et voilà, on se racontait nos rêves, on essayait de les comprendre, de les interpréter. Donc avant 1976 et se tournant vers la Kabbale, j'étais déjà... finalement très branché sur les rêves, sur le monde des rêves et tombé dedans en quelque sorte. Donc je suis rentré dans cette voie de la Kabbale. Je me suis vraiment investi comme j'ai pu m'investir dans les mouvements d'extrême gauche. Je me suis investi dans ce mouvement intérieur qui était toute ma vie depuis ce moment-là. Bon, j'ai eu de fortes expériences spirituelles tout de suite qui m'ont polarisé. Alors vous savez peut-être que la Kabbale considère les rêves comme très importants, puisque donc le grand livre de la tradition de la Kabbale, qui s'appelle le Sefer HaZohar, qui veut dire le livre de la splendeur, considère que recevoir un rêve sans l'avoir interprété, c'est comme si on recevait une lettre et que on ne l'ouvrait pas. Donc j'étais encore plus branché sur les rêves par ce fait. J'ai été conseillé par mon maître de Kabbale d'aller vers Jung, faire une analyse, voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mes rêves. J'ai rencontré ma compagne et associée en 1986. C'était annoncé par des rêves, d'ailleurs. Et elle-même était passionnée par les rêves et par la psychanalyse. Et en fait, on a beaucoup travaillé, beaucoup cherché. Donc j'ai commencé, elle aussi, à recevoir des gens pour le travail sur les rêves. Ça, c'était début des années 90, à peu près. On a eu une grande expérience de 1993 à 1999 où nous nous sommes engagés. Vous savez, pour moi, l'engagement militant est assez important de toute façon. Donc nous nous sommes engagés, totalement investis, dans une communauté chrétienne d'accueil de SDF, donc dans la région des Cévennes. Et ça a été une expérience très importante. Parce que c'était en fait une véritable expérience de l'accueil, l'accueil inconditionnel, on pourrait dire, de personnes en grande difficulté, parfois en grande errance et en grande folie. Je me rappelle le premier week-end où nous étions dans cette communauté, il y avait un gars qui avait pété les plombs, qui avait pris une hache, il voulait tuer tout le monde. C'est là en fait où j'ai compris la puissance spirituelle de l'accueil, parce que donc c'était un couple qui était les fondateurs de la communauté, et la femme de ce couple s'est mise devant lui et d'autorité, elle lui a dit, mais ici c'est ta maison, tu vas pas tuer tout le monde, et il s'est effondré en sanglots et il a donné sa hache. C'est-à-dire la puissance de l'accueil est très importante, elle transforme les fauves en êtres aimants. Et vous savez peut-être que pour moi ça a une résonance spéciale en tant que kabbaliste, parce que le mot kabbale, en hébreu, kabbalah, veut dire la faculté d'accueillir, de recevoir. Et donc, essentiellement branché sur la relation à l'altérité, qui est une expérience féminine, s'ouvrir à l'autre, accueillir l'autre, recevoir l'autre à l'intérieur de soi. C'est une expérience de la féminité qui a été considérablement massacrée dans l'histoire de l'humanité, avec les violences, les viols, les relations de pouvoir, les égocentrismes. Alors j'étais pas, Agnès non plus, ma compagne, nous n'étions pas totalement en accord ou alignés sur la pensée chrétienne du couple fondateur, qui sont des personnes que nous admirons pour leur action pratique. Mais souvent, ils avaient une conception un peu raide de ce qu'était la morale chrétienne. Par exemple, ils ne recevaient pas les homosexuels dans leur communauté. Et puis, c'était aussi une communauté, vous savez, donc, qui reçoit des personnes en grande difficulté. C'est-à-dire, ils étaient un peu le papa et la maman. Et Agnès et moi, nous n'avions pas ce feeling d'avoir besoin d'un papa et d'une maman. Voilà, ça manquait peut-être, à mon sens, à l'époque, hein, parce que ça a beaucoup évolué depuis. Ça manquait de collégialité, mais nous sommes restés 6 ans dans cette communauté. Ça a été une école extraordinaire, vraiment une école de spiritualité christique, je dirais, et de la spiritualité de l'accueil, absolument extraordinaire, qui a enrichi notre façon d'approcher, le monde de l'inconscient, les rêves, les... Voilà. Alors, donc, au sortir de cette communauté en 1999, eh bien, Agnès et moi, nous avons créé l'école du rêve et des profondeurs à Montpellier. Ici, vous voyez, c'est le siège social de cette communauté. Eh bien, ça a été le début d'une nouvelle aventure, hein, parce que tout de suite, il y a eu un engouement étonnant, comme si on répondait à un besoin. Alors, pourquoi justement nous l'avons créée, cette école? Parce que nous nous étions rendus compte que Le rêve était en quelque sorte le parent pauvre des formations psy. C'est-à-dire, on apprenait en quelque sorte à expédier le rêve, parce que on considérait l'essentiel comme étant la thérapie verbale, c'est-à-dire ce que la personne, en séance de thérapie, dit, raconte, à partir d'elle-même. Alors que le rêve vient d'un point de vue autre qui est à l'intérieur de nous, et c'est ce point de vue autre qui est en fait éminemment thérapeutique. Le rencontrer, c'est ouvrir une voie de thérapie. Donc c'est une école jungienne, hein, l'école du rêve et des profondeurs. Alors on a sorti en même temps notre premier livre qui a eu un grand succès, donc il s'appelle « Le sel des rêves ». C'est un livre qui a très bien marché dans toute la France et donc jusqu'à aujourd'hui fait que des personnes s'intéressent à notre travail et nous contactent pour cette formation.
Oui, alors justement, « Le sel des rêves » et également le livre qui a suivi, donc « Le Cantique des Cantiques », le très commun, en quelque sorte, c'est toujours cette lecture intériorisée, que ce soit des rêves ou des mythes ou des textes sacrés. J'ai envie de dire un peu à l'image de ce que fait encore d'ailleurs Annick de Souzenel, qui d'ailleurs elle aussi est dans la Kabbale. Mais quelle est votre spécificité peut-être par rapport à Annick? Vous la connaissez d'ailleurs?
Oui, je la connais, nous sommes rencontrés personnellement, des discussions. Je la respecte beaucoup et elle a été absolument essentiel pour le développement des études, de revenir au texte hébreu de la Bible. Ça a été essentiel, elle a été très importante pour moi aussi, parce que ça m'a ouvert justement un champ que je n'imaginais pas au début. Et en fait, vous savez, nous approchons toujours les textes à partir d'un point de vue. Annick de Souzenel, son point de vue, c'est le christianisme orthodoxe. Moi, c'est beaucoup plus une méditation sur la tradition hébraïque. Et donc, j'approche le texte avec les méthodes de relecture de la tradition de la Kabbale. Et bon, on a des différences avec, certains diraient des oppositions, avec Annick de Souzenel, bien que je respecte parfaitement sa voix. Par exemple, elle, son concept central, c'est faire œuvre mal, c'est-à-dire revenir à une attitude masculine, moi, je dirais plutôt faire œuvre féminine. Elle parle du féminin de l'être, mais le problème, c'est que pour elle, le féminin, c'est l'inconscient. Alors que le féminin, c'est l'autre du masculin. C'est pas seulement l'inconscient. C'est-à-dire que faire œuvre mal, c'est réduire finalement cet inconscient au profit du conscient. Alors, j'ai pas du tout la même vision, parce que pour moi, bien sûr, il y a ces deux grands archétypes, je parle là en langage jungien, archétype masculin, archétype féminin. Pour moi, l'archétype masculin, c'est la puissance d'affirmation du moi dans l'être, qu'on soit homme ou femme. L'archétype féminin, c'est l'archétype de la relation, de l'accueil de l'autre, de l'amour. Et on a besoin de l'union harmonieuse de ces deux archétypes. C'est pas exactement la problématique d'Annick de Souzenel, puisqu'elle réduit le féminin à l'inconscient, finalement, à ce qui n'est pas encore advenu. Et donc, plus on fait pour elle œuvre mal, plus, du coup, on réduit cette part du féminin. Alors, c'est peut-être le problème, c'est que tout au long de la tradition judéo-chrétienne, et là, je prends cette tradition au sens large, on a, en fait, toujours eu une apologie du masculin. Mais ça correspond à une pesanteur de notre civilisation, qui est une civilisation patriarcale. Et le féminin, la féminité, a toujours été le parent pauvre, en quelque sorte. En tout cas, relégué à une dimension inférieure, ou une dimension dont il faut se méfier, qu'il faut réduire. Par exemple, vous savez qu'en latin, le côté gauche, qui est traditionnellement le côté féminin, se dit sinistra, qui a donné notre sinistre. Et la féminité a été tellement massacrée dans l'histoire, depuis qu'il existe une humanité, c'est-à-dire depuis 2,5 millions d'années, que encore aujourd'hui, dans nos inconscients, féminité est souvent associée à sinistre, et souvent associée à malédiction. On a peur de l'ouverture à l'autre. J'ai beaucoup compris ça à la communauté dans laquelle nous nous sommes investis. On a peur d'être dans une position d'accueil, Donc on préfère tout boucler avant même qu'il y ait une relation. Et c'est ce qui fait le drame de notre époque, c'est ce qui fait tout le grand stress, la crispation. C'est-à-dire, pour moi, justement en accord avec la tradition de la Kabbale, la féminité doit être relevée et placée au centre pour qu'il y ait justement une union harmonieuse du masculin et du féminin. C'est le masculin qui a été placé au centre et la féminité qui a été marginalisée. Et en fait, ça, c'est l'aliénation de l'humanité. C'est le drame dont nous sommes tous héritiers. Et l'enjeu, c'est de relever la féminité. Tous les rêves parlent de ça.